Bonjour Natacha.
Bonjour.
Nous sommes à la ferme urbaine. La ferme urbaine fait partie d'un projet plus global qui est le début des haricots. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des différents projets et puis aussi de dire comment le début des haricots a commencé, si la ferme urbaine était déjà là au début?
Alors oui, en effet, la ferme urbaine fait partie de l'SBL Le Début des Haricots. Ça a été un des premiers d'ailleurs projets du début des haricots. Ça a été créé par une bande de copains qui à l'époque sont partis au Canada, il y a une quinzaine d'années de ça. Le Canada qui était fort à la pointe de tout ce qui était agriculture urbaine, etc. Et donc du coup, ils ont été s'inspirer de projets déjà existants. Ils sont revenus en Belgique et ont voulu... refaire pareil, ou en tout cas voilà, ils sont revenus avec plein d'idées, notamment la ferme urbaine en était une, et c'est comme ça qu'elle a été créée. Et c'est comme ça que l'ASBL aussi a été créée également. Alors cette ASBL, elle a 15 ans, donc il y a plusieurs projets qui ont été hébergés, notamment il y a eu à l'époque le réseau des GASAP qui s'est autonomisé et qui maintenant est une ASBL à part entière. Et aujourd'hui, il y a plusieurs projets, donc la ferme qui en est un quand même assez conséquent ici à Neder. Il y en a un deuxième à Anderlecht qui est l'espace test agricole. Donc c'est à peu près 9 hectares qui sont dédiés à une installation test pour des maraîchers. Donc ils ont le terrain à disposition, ils ont les machines agricoles et toutes les infrastructures pour pouvoir se tester. Ce qui est assez chouette parce que quand on se lance, il faut beaucoup beaucoup d'argent, donc du coup ça permet de pouvoir se lancer avec en tout cas moins d'investissement de départ. Donc ça c'est aussi un des gros projets qui existe. Après il y a les jardins collectifs, donc c'est de l'accompagnement de citoyens qui voudraient mettre des jardins collectifs en place à Bruxelles. Il y a l'imprimerie aussi qui est également un jardin collectif et citoyen à Forêt, et il y a aussi une pépinière citoyenne qui s'appelle La Pousse qui pousse et qui est à Forêt. C'est tout nouveau, maintenant il y a aussi la pépinière à projet qu'on appelle ça, donc c'est une personne qui a été engagée et qui est là pour un petit peu guider les personnes qui seraient en demande justement de développer des projets citoyens autour de l'agriculture urbaine ou de la verdurisation d'espaces publics et voilà, surtout centré à Bruxelles.
Super, ça donne envie d'y aller en tout cas. Alors on est à Neder-Overenbeek, c'est la ferme urbaine. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, tu peux aussi parler de toi, de ton rôle dans la ferme urbaine et puis nous décrire le paysage, ce que vous y faites, quel est le projet?
Alors ici c'est un peu particulier parce que donc on est effectivement à Neder-Overenbeek, donc une commune qui est bruxelloise, on est rattaché à Bruxelles mais on est vraiment en périphérie. Donc il y a une partie du terrain, donc le terrain est un peu en contrebas, donc c'est vrai qu'on arrive à la ferme par tout plein de logements sociaux. Et puis le terrain se trouve un peu en contrebas, donc c'est vrai qu'il est un peu caché, on le voit pas tout de suite, il y a beaucoup d'arbres.
C'est vrai, j'affirme qu'en effet c'est pas évident à trouver.
Voilà, ce qui donne son charme aussi, voilà, on est un petit peu caché, un petit peu dans notre monde aussi, donc il y a beaucoup d'arbres, on descend par un petit escalier en bois et tout de suite on arrive sur une cabane en torchis paille qui est notre centre gravitationnel, c'est là qu'on vit, qu'on fait nos réunions, qu'on s'organise et qu'on mange. Juste à côté, il y a aussi une cabane tout à fait en bois qui, elle, accueille tous nos outils. Après, vous avez deux serres dans lesquelles on cultive des cuves qui nous permettent d'irriguer nos serres. Et puis, tout un grand terrain quand même d'un hectare et demi qui est quand même bien boisé et qui est entouré de lui-même de champs. Donc c'est vrai qu'on est à Bruxelles. Mais on est quand même bien, on a quand même bien l'impression d'être à la campagne. Alors, ce qui est un peu particulier, c'est que il y a une partie du terrain qui est sur Bruxelles, et puis nous cultivons nos légumes à Vilvoorde. Donc, c'est vrai qu'on est un peu à cheval sur les deux communes. Alors, c'est un lieu vivant en termes de biodiversité. On y voit plein de vie en fait, humaine clairement, puisque nous on y travaille, mais on voit plein d'insectes grouiller partout, on entend plein d'oiseaux. Il y a des oies sauvages qui reviennent chaque année, qui sont là en ce moment. Il y a des grenouilles, des batraciens. Il y a beaucoup, beaucoup de vie. Et alors, on est plusieurs à y travailler. Donc moi, personnellement, bah, je suis formatrice en maraîchage, donc c'est un projet de réinsertion socio-professionnelle. Donc on a pour vocation bah, d'apprendre le métier de maraîcher, pour ceux qui veulent en vivre en tout cas. Et donc ce sont des personnes qui sont... Donc on emploie 7 personnes à temps plein pour les former au maraîchage et potentiellement retrouver du travail par après, pas forcément dans le maraîchage, mais aussi bien dans l'animation autour de l'environnement ou la sensibilisation. Et à terme de ces 2 ans, ben on espère qu'ils trouvent du travail et qu'ils sortent beaucoup plus outillés, en tout cas pour pouvoir en trouver. Moi, personnellement, ça fait 6 ans maintenant que je travaille ici. C'est un travail que j'affectionne beaucoup.
J'imagine que c'est être à la ville, mais un retour à la nature quand même.
Parce
que ici, c'est vrai qu'on se dirait complètement hors de Bruxelles.
Bah, ça, c'est magique, quoi. C'est vraiment une chance. C'est vrai que toutes les personnes qui travaillent ici vivent en ville. Mais en fait, on travaille à la campagne. Et ça c'est un luxe, quoi.
C'est un luxe, mais en même temps, c'est magnifique. Ça devrait être un luxe plus partagé, offert à...
Ça fait partie de nos idées.
Bien sûr, ouais.
De ramener la campagne en ville.
Oui, c'est ça. Que la ville ne soit pas complètement coupée de la vie à la campagne. Et donc, vous cultivez des légumes, principalement ça que vous...
Oui, tout à fait. Alors, on a une activité agricole qui... Donc, on confectionne des paniers du mois de mai au mois de décembre pour à peu près l'équivalent de 270 personnes par semaine. Donc, c'est quand même assez conséquent. On travaille le sol avec 2 ânesses qui ne sont pas là en ce moment, mais qui reviennent d'ici 2 semaines, car chaque année, on fait une transhumance. En hiver, on les amène... ailleurs, et donc là elles vont bientôt revenir, mais donc on travaille le sol avec elles. On essaye évidemment d'être zéro pétrole, même si bah, on a quand même un motoculteur dans une optique de formation et une voiture pour pouvoir faire les livraisons de paniers. Alors on réfléchit à des alternatives pour pouvoir se passer de ça. Les ânesses en sont une. Voilà, on a un poulailler aussi.
Donc il y a des œufs aussi.
Mais ça c'est plutôt pour la consommation
personnelle. Personnelle, oui, d'accord.
Et donc on produit l'équivalent de 120 variétés de légumes différentes, donc à peu près 70 légumes au total, ce qui est un modèle agroécologique et de maraîchage ultra diversifié. Justement, on essaye de ne pas du tout faire de l'achat-revente et de ne pas du tout dépendre de ce système-là, mais de plutôt être tout à fait autonome en termes de production, même si on ne l'est jamais complètement. On achète quand même la plupart de nos semences à l'extérieur, on en produit quand même une certaine partie. Et c'est vrai que toute la matière, donc, pour qu'il y ait autant de vie dans nos sols, donc tout ce qui est, toutes les méthodes agroécologiques vont tendre vers ça, mais pour qu'il y ait de la vie dans nos sols, on essaye d'utiliser un maximum de matière organique que nous trouvons aux alentours, enfin sur le terrain déjà, et puis sur un autre périmètre un petit peu plus élargi. Et parfois, on amène d'un petit peu plus loin quand il le faut, mais on essaye de travailler le plus localement possible et de fonctionner avec tous les déchets qui nous entourent, en fait.
On arrive aux déchets. Il y a des déchets organiques qui sont générés par votre activité. Ne fût-ce que, j'imagine, par exemple, si... Bon, je ne sais pas si ça arrive, mais si vous avez trop de production... comment vous faites avec vos déchets qui sont générés par votre activité, qui sont évidemment des déchets principalement organiques, j'imagine.
Oui, tout à fait. Bah, alors, on a très peu de déchets générés par notre production de légumes. On a très très peu de surplus, donc ça c'est quand même chouette. C'est lié au fait qu'on fonctionne par panier, donc par abonnement par l'année, donc on sait le nombre de légumes qu'on doit sortir, etc. Ce qui va générer surtout de la matière et qu'on va utiliser en déchets, ce seront plutôt de la paille, des déchets de taille, des feuilles mortes. On va aussi beaucoup utiliser le fumier de nos ânesses. Donc ça, c'est un gros apport aussi. On a également un voisin qui a 3 ânes et chez qui, chaque année, on va chercher... toute la litière, de nos poules aussi. Donc on va utiliser la fiente des poules pour certaines cultures avec parcimonie. Et alors après, on a des toilettes sèches avec des déjections humaines, mais ça, bah, pour disons pour une plutôt un contrôle lié à l'AFSCA, on ne l'utilise pas sur les... Ça, c'est la réglementation. Donc, on ne peut pas l'utiliser sur les cultures, en tout cas de légumes. Nous, on les utilise sur certaines cultures de fruitiers, donc au pied des fruitiers. Et c'est vrai qu'on attend au moins 2 ans. Donc, on va le laisser composter, on va le retourner 2, 3, 4 fois. Et ensuite, au bout de 2 ans, on va les mettre au pied des fruitiers. Mais on ne va jamais mettre en contact les légumes avec la matière organique générée par
par les humains.
La toilette sèche.
D'accord.
Ouais.
Ah oui, donc vous avez une politique de toilette sèche au sein d'ici, mais en effet, ce qu'on récupère, vous ne pouvez pas l'utiliser directement pour.
On ne peut pas. Après, sur les arbres fruitiers, dans les haies aussi, donc c'est vrai qu'on a donc un agriculteur qui est juste à côté, qui est en conventionnel, donc c'est vrai qu'on essaye de se protéger de potentiellement les produits qu'il utilise. Donc pour ça, on a créé toute une haie, et donc là, justement, pour un petit peu favoriser la reprise de certains arbres ou qu'ils puissent grandir un peu plus vite, alors on va utiliser plutôt cette matière-là pour ça, mais jamais sur les légumes. Et ça, c'est plutôt la législation qui nous tient. Après, c'est vrai que quand on va voir dans la littérature, quand on regarde tout ce qui est les maraîchers de Paris, etc., ils utilisaient des déchets humains pour leur culture. Voilà, la législation aujourd'hui ne permet plus de le faire.
Par contre, pour les animaux, c'est possible. D'après ce que j'ai compris, vous pouvez.
Pour les animaux, c'est. Ouais, tout à fait. Les animaux, c'est utilisé. Voilà, après, on la décompose avant de l'utiliser.
Oui.
Donc, on ne l'utilise jamais fraîche. Ça, clairement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même toute une partie des bactéries qui sont éliminées grâce à ce compostage. Ça, on y fait très attention.
Oui, donc évidemment, on n'utilise pas les déchets tels quels. Cependant, il y a quand même un différentiel de législation qui est étonnant, enfin, dans le sens où, en effet, les déchets des animaux peuvent être utilisés, alors que les déchets humains ne peuvent pas être utilisés.
Mais je pense que c'est fort dans la tête, c'est très psychologique. C'est quelque chose qu'on élimine de notre corps et qu'on veut le voir le moins possible et qu'il disparaisse le plus vite possible. Je pense qu'il y a vraiment un côté psychologique à ça. Après, quand on en parle notamment avec l'AFSCA, si je me rappelle bien, c'était pour ne pas contaminer par une bactérie qui s'appelle le E. coli, qui peut être mortelle sur des nourrissons et des personnes plus fragiles.
Selon vous, vos idéaux, est-ce que Bruxelles devrait s'atteler un peu plus à cette politique des déchets, des excréments humains? Parce que pour l'instant, il y a la toilette sèche, mais je ne connais même pas les chiffres de ce qui se fait à Bruxelles même. C'est juste la chasse d'eau, en fait. Donc, c'est consommation d'eau. Et puis, comme vous disiez si bien, c'est juste une question psychologique. On ne veut plus en entendre parler. On tire vite la chasse d'eau pour que ça disparaisse.
Mais déjà, une ville comme Bruxelles, c'est quand même 1 million de personnes. Donc, je pense que ce serait vraiment de très, très grosses infrastructures qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir vraiment composter toute cette matière. D'une part, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait en tout cas être facilement réalisable. Ce serait arrêter d'utiliser de l'eau potable déjà. Enfin, si on veut continuer à mettre nos déchets fécales dans de l'eau, déjà utilisons l'eau impropre, parce que ça, c'est quand même déjà une aberration, et ça, ce serait quand même vraiment assez simple à mettre en place. Après, évidemment, l'idéal, ce serait de ne pas du tout utiliser d'eau, ça, c'est une certitude. Avec 1 million de personnes, j'ai un peu du mal à voir comment est-ce que ce serait réalisable, mais je crois que ce n'est pas impossible. D'ailleurs, je pense qu'il y a certaines... Il y a un organisme qui le fait, je connais pas le nom, mais je sais qu'ils passent de maison en maison pour récupérer toute cette matière et qu'ils vont la composter de leur côté.
Les déchets humains ? Ah oui.
Donc ça existe, mais voilà, j'ai pas du tout les détails par rapport à ça. J'en ai juste entendu parler. Mais après, ce serait tout à fait. Déjà, toutes les personnes qui ont des jardins, oui, clairement, allons-y quoi. Enfin, c'est quand même assez. Enfin, c'est relativement facile à mettre en place. Après, toutes les personnes qui n'en ont pas, faudrait des très très grosses infrastructures pour Bah oui, pour composter toute cette matière et je pense l'éloigner quand même très fortement d'habitation, puisque ça doit quand même générer une odeur assez conséquente. Mais oui, je pense que clairement, il y a des choses assez simples en fait, déjà à l'heure actuelle à mettre en place, sans pour autant penser à infrastructures énormes pour composter les déchets de 1 million de personnes. Oui, évidemment qu'il faut tendre vers ça.
Et je
Évidemment.
sais évidemment, il y a des entreprises, donc il y a le secteur privé qui prend un petit peu d'assaut ces questions pour l'instant, notamment dans des pays comme Israël, où une entreprise a développé une boîte en fait dans laquelle on dépose les déchets et qui composte. Et donc c'est une boîte complètement hermétique, donc il n'y a pas de problème que ça génère des odeurs ou que des bactéries en sortent, etc. Mais ça, je parle du secteur privé, et donc évidemment, c'était un peu ma question, c'est évidemment que c'est plutôt la politique publique qui devrait, puisque c'est quand même une richesse. C'est un or brun et un or voilà jaune qui appartient en fait aux collectivités et qui devrait être pris en compte.
Ah, et puis en termes agricoles, elle pourrait être vraiment valorisée. Ah oui, et on pourrait complètement. Enfin, si c'était bien organisé et bien distribué, on pourrait tout à fait se passer d'engrais et tout ce qui, tout le chimique qu'on introduit dans nos aliments à travers l'agro-industrie, etc. Il pourrait être tout à fait mis de côté si. Voilà, une
Tout ça
bonne
était
partie,
récupéré,
si tout ça était récupéré et réutilisé, évidemment, il faut rentrer dans des cercles vertueux, parce que là, on est en train de complètement bousiller, de tout foutre en l'air, quoi, c'est clair, hein.
Et notamment, et je sais que les jardins bruxellois, notamment, sont vraiment en train de s'appauvrir énormément parce qu'en fait, on retire, on retire, on retire, mais on ne remet jamais rien. Et ce sera peut-être ma dernière, enfin une de mes dernières questions, mais justement par rapport à ça, la politique de récolte des déchets organiques qui va devenir, le tri va devenir obligatoire. Je me dis que d'un côté, ça devrait revenir à un moment donné dans les jardins bruxellois, plutôt que ce soit emmené dans des structures où en fait après les jardins bruxellois ils ne revoient jamais l'engrais qui a été généré par ces déchets.
Oui, pour ça il faut des jardins, il faut plus de jardins.
Oui, il faudrait aussi plus
Plus
de
de
jardins.
jardins collectifs, plus d'espaces verts, plus d'espaces dédiés aux citoyens.
Tout à fait.
Et alors à ce moment-là, on pourrait organiser des livraisons de masse, quoi.
Et donc en
Et donc
fait,
en fait,
la
la
question des
question
déchets organiques, mais humains aussi, pose aussi la question du territoire et de comment en fait on redistribue le territoire entre les habitations, les espaces verts. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas d'espaces verts, les déchets deviennent vraiment encombrants.
Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait.
Bien, merci beaucoup, Natacha, de m'avoir accueillie.
Avec
Et
plaisir.
puis surtout, bonne continuation. Je trouve ça magnifique. C'est très apaisant, en tout cas, d'être ici. On a l'impression qu'on oublie complètement la journée.
On est un peu ailleurs.
Merci, en tout cas. Et à bientôt.
Ah, à bientôt. Salut.